à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Aujourd'hui, je serai en compagnie de Dwayne.
Salut tout le monde.
Et d'ATH.
Bonjour à tous.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons de Phoenix Rage, d'Outcast et d'Apocalyptic Cat du côté des indépendants. Nous enchaînerons ensuite sur un Kickstarter raté qui a été repris par Atlus. Nous évoquerons H1Z1. Non, il ne s'agit pas d'un code, d'un nom de virus. Hein, ce n'est pas la grippe aviaire, n'est-ce pas? Il s'agit du prochain jeu de survie signé Sony, Star Citizen, qui donne des nouvelles durant la PAX East. Ensuite, nous parlerons de Borderlands, de pré-sequel. excusez-moi, c'est nerveux. Nous enchaînerons ensuite sur l'annonce à la PAX East de Civilization Beyond Earth. Nous évoquerons Fortnite, The Last of Us sur PS4, le Nintendo Direct dédié à Super Smash Bros, sur lequel Dwayne a salivé, il paraît. Je vous avoue que ça me désespère, mais bon, personne n'est parfait. Et nous aurons une petite date à vous annoncer, une petite date qui fait plaisir, n'est-ce pas? Sans oublier notre jeu du moment, et ce jeu, c'est Heroine's Quest Herald of Ragnarok. Allez, c'est parti, et nous allons donc commencer, Dwayne, par un jeu de la PAX East.
Voilà, ça a été présenté effectivement à PAX East. Donc c'est Phoenix Rage. Donc c'est un petit jeu de plateforme qui ressemble un peu à Super Meat Boy. Donc là on a un mécanisme effectivement de dash qui permet de se déplacer avec une accroche au mur, avec un système où on va pouvoir se déplacer sur les murs de manière assez rapide. C'est vraiment basé sur la rapidité, cette accroche au mur et le dash. On est voilà sur un jeu de plateforme assez exigeant comme peut l'être un Super Meat Boy. Donc déjà au niveau du style, je suis assez conquis par l'aspect visuel, assez travaillé. Au niveau des plateformes, on a une espèce de dynamique avec des cubes qui bougent et on va devoir avoir un certain timing, c'est-à-dire avancer, s'arrêter, devoir sauter sur un cube. Enfin, on a cette dynamique toujours en mouvement par rapport au décor. Et donc c'est un jeu qui, je pense, pourrait avoir son petit effet lors de la sortie.
Nous allons maintenant passer à Outcast, pour être précis, au reboot HD de Outcast. Alors, pourquoi cette licence culte de la fin des années 90 refait surface cette semaine? Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire, il se trouve que les créateurs ont fait le siège des locaux d'Atari pour récupérer la licence qui était donc détenue depuis un certain temps déjà par cet éditeur-là. Cet éditeur, donc, qui, rappelons-le, n'en foutait plus rien depuis des années, n'avait d'ailleurs apparemment pas l'intention d'en faire quelque chose, mais qui le gardait quand même parce que, voilà, c'est orange ligne rouge, n'est-ce pas? Atari a fini par céder, les créateurs ont remis la main sur la licence, tout va bien, sauf que... Alors, si on veut relancer la franchise, on fait comment? On finance comment? Eh bien, tout simplement, ils ont décidé de faire appel au financement participatif, et donc aux joueurs, sur Kickstarter, parce qu'on imagine bien qu'ils n'ont pas envie de revivre les déconvenues qu'ils ont connues avec Atari. Ça peut bien se comprendre, j'imagine. Malheureusement, à mon grand regret, il se trouve que ce financement ne servira pas à créer une suite à Outcast, mais un reboot HD. Alors, déjà, on va commencer par faire un petit récapitulatif de ce qu'est Outcast pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu original. Outcast, à la base, c'est un jeu d'action-aventure. La partie action étant découpée entre une vue à la première personne et une vue à la troisième personne. Et donc, c'est un jeu qui a marqué son époque. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est l'un des premiers jeux, à ma connaissance, qui disposait d'un véritable univers vivant. C'est-à-dire que les PNJ, tout simplement, vivaient leur vie, quoi. Ils travaillaient dans les champs, ils se baladaient, les gardes faisaient des rondes, etc. Enfin bref, c'était vraiment un jeu qui a impressionné à son époque pour ça. C'est un jeu aussi qui avait un doublage excellent. On retiendra notamment la voix française de Bruce Willis, qui jouait le héros, qui évidemment ressemblait étrangement à Bruce Willis. C'est un jeu aussi qui a marqué tout simplement par son ambiance. Un jeu qui était servi par une direction artistique absolument sublime, qui était servi aussi par un moteur qui envoyait du bon gros pâté. Donc, je me tourne vers Dwayne. Dwayne, ces gens, ils demandent combien déjà?
$600,000.
Ouais, donc c'est pas une petite somme, quoi, on va dire. Hein. Et ils en sont à combien, là, actuellement?
Donc là, ils en sont à 184 000.
Bon, c'est pas catastrophique, on va dire, mais c'est pas le départ le plus foudroyant qu'on ait connu, parce que là, en fait, ça fait 3-4 jours qu'il est lancé, je crois, il me semble.
Ouais, ça fait à peu près une semaine, quoi. C'est ben là, ils sont à, il leur reste 24 jours pour atteindre leur objectif.
On va dire qu'il va falloir qu'ils mettent les bouchées doubles. Alors moi, je sais pas ce que vous en avez pensé. En tout cas, sur la vidéo de présentation, parce qu'il faut voir qu'après, ils ont posté une vidéo du moteur. Franchement, elle était juste pas du tout convaincante, quoi. Je veux dire. À un moment donné, tu vois le jeu tourner sur un moniteur dans un coin qu'on voit pas trop. Enfin, c'était surtout face à plein de Kickstarter, tu sais, de moindre envergure qui demandent beaucoup plus et qui demandent beaucoup moins. On va dire que moi, ça m'a pas incité à backer, quoi.
Ouais, moi, en tant que noob sur la série, on va dire que c'est vrai que ils m'ont quand même un peu convaincu en me parlant, en tout cas, de l'ancien. Mais c'est vrai qu'avec avec ce qu'ils ont montré, je suis pas extrêmement convaincu. Après, je pense que je vais backer juste pour, je vais payer pour voir, tout simplement. Mais d'un point de vue purement objectif, c'est-à-dire moi, j'inciterai pas quelqu'un à backer pour ce projet. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose que je trouve assez pas bancal, mais on n'est pas sur un projet vraiment top où je pourrais dire oui, allez voir le projet, backer sans problème. Je suis vraiment sur ce type de projet où je vais backer personnellement pour voir ce qu'ils peuvent faire et pour soutenir justement parce qu'ils sont passés quand même par pas mal de choses, le rachat de à Atari, refaire justement cette licence qui attend plus vu qu'il y a aussi cet aspect, c'est vraiment quelque chose de culte pour pas mal de gens que je connais en plus aussi, qui m'en ont parlé, qui m'ont dit que c'est vraiment quelque chose de culte pour eux. Donc j'ai
mais
envie de
t'as
voir.
T'as vu la vidéo du moteur quand même ou...
La vidéo du moteur, j'ai juste vu sur les écrans rapidement ce que ça pouvait donner.
Parce qu'ils ont posté dans les updates une vidéo du moteur. Hein.
D'accord. Donc après,
c'est pour ça que moi j'ai entre guillemets un peu adouci mon jugement. Mmh. C'est parce que contrairement à beaucoup de Kickstarter qui demandent des grosses sommes comme ça, on a eu vers la deuxième update déjà une vidéo du moteur. Hein. Il y a du concret quand même. C'est juste que au lancement,
donc,
ils ont fait de la merde.
Et s'il y a eu du nouveau, donc je vais peut-être revenir sur mon jugement après, mais dans tous les cas, par rapport à ce que j'ai vu, on est quand même sur quelque chose qui personnellement me plaît dans le sens de la mythologie, ce que ça peut apporter. J'ai envie de voir comment ils renouvellent leur propre licence. Donc de ce point de vue-là, je pense que qu'à un moment donné, je vais backer le projet.
Alors moi, pourquoi j'ai un problème avec ce Kickstarter aussi? Parce que moi, en fait, finalement, le changement du moteur, moi, je m'en fous, mais d'une force. Parce que pour moi, en fait, c'est un jeu qui a très bien vieilli. Alors oui, il est en 640 fois machin. Mais c'est un jeu qui reste très agréable à l'œil encore, je trouve, aujourd'hui. Par contre, il y a un point où, à mon sens, ils n'ont pas du tout été clairs et où il va falloir qu'ils corrigent ça très vite. C'est au niveau du gameplay des phases de shoot. Je veux dire, c'est un jeu qui date de 99. Déjà, la vue FPS, c'était pas terrible à l'époque. Et à la troisième personne, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, honnêtement, je veux dire, tu prends tous les TPS qui existent, il lui roule dessus sans aucun souci.
Ouais.
Et ce qui me pose souci là, c'est que justement, je n'ai pas vu d'éléments qui me disent si ils vont vraiment retravailler à fond les phases de tir, au moins à la troisième personne. Là, franchement, s'il est là tel quel, c'était déjà pas excellent à l'époque, mais alors là, ça va être pourri. Hein. Donc, j'espère vraiment, vraiment qu'ils vont retravailler déjà le game design du jeu pour l'adapter au standard d'aujourd'hui, quoi. Mm. Certes, c'est bien de reproduire les décors d'origine tels quels, mais quand tu rajoutes des mécaniques modernes de gameplay typiques des shoots d'aujourd'hui, il faut que tu revoies complètement le level design de certaines maps, par exemple, tu vois, pour que les phases de shoot soient intéressantes. Après, le shoot, c'était pas non plus le cœur du jeu, quoi. Je veux dire, le cœur du
jeu. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ouais, quelle part ça a, en fait, l'action, au sein de la série, en général?
Bah, disons que le cœur du jeu, vraiment, c'est son ambiance. C'est le fait d'explorer la carte, etc. Mais, il n'empêche que, voilà, moi, on me parle d'un remake. J'ai certaines exigences, tu veux. Pour moi, c'est quoi l'intérêt d'un remake? C'est de corriger les défauts de l'original, en fait. Et si tu me dis que on va reprendre l'original juste pour corriger les graphismes, alors qu'à mon sens, les graphismes, c'est pas ce qui a le plus mal vieilli dans le jeu. Enfin, voilà. Les faces qui marchaient bien dans l'original, c'est celles qui avaient pas besoin de corriger, quoi. Je veux dire, l'explos, ça marchait très bien. Les PNJ, par exemple, moi, je me rappelle un truc qui m'avait bluffé à l'époque. C'est le fait que quand tu cherchais un mec, tu vois, il disait ouais, vous savez où il est le mec? Il se retournait, il se levait, tu vois, il pointait le mec du doigt, il disait c'est lui là-bas. Le truc que tu vois même pas dans Skyrim aujourd'hui, quoi, tu vois.
Ouais.
Je veux dire, c'est les mécaniques marchaient très bien à ce niveau-là, et les seules mécaniques qui ne marchent plus aujourd'hui, c'est les phases de shoot. Donc, c'est quoi l'intérêt d'un remake si tu ne me corriges pas ça? Après, je sais pas ce que vous attendez d'un remake, par exemple à la TH. Pour toi, un remake, c'est quoi l'intérêt, quoi, en fait?
Bah, un remake, c'est reprendre le matériau de base, on va dire. Tu gardes l'histoire, en gros. Et puis, tu améliores tout ce qui est graphisme. Tu rajoutes des petits trucs qu'il n'y avait pas pour que les gens qui l'ont fait à l'époque, eh bah, ils ont envie d'y retourner. Et aussi, surtout, bah, comme tu as dit, bah, corriger les défauts du précédent, en fait. Parce que il faut savoir que aujourd'hui, en 2014, tu vas faire ça jouer à des gens qui n'ont pas connu ça à l'époque. Ils vont vous dire, mais non, mais ton jeu, c'est de la merde et tout ça. Tu vois, même, on est beaucoup à vanter les mérites de GoldenEye 64. Aujourd'hui, tu ressors le jeu tel quel. Juste, tu améliores les graphismes, les gens, ils vont dire, non, mais ton jeu, il est pourri, quoi. Remets-moi Call of Duty, Battlefield, et puis je vais y jouer. Comme tu l'as dit, il faut améliorer la jouabilité, tout ce qui est level design, etc., intelligence artificielle, parce que si tu ressors tel qu'à l'époque, juste en plus beau, bah, le jeu, il sera même assez moyen pour la plupart des joueurs.
Vous aurez compris, bon, on est un peu dans l'expectative de ce qui va se passer, en fait. Ma contribution au Kickstarter, elle va énormément dépendre de ce qu'ils vont montrer durant les prochaines updates du Kickstarter, quoi. Si dans les mises à jour, il y a du concret par rapport à ce qu'ils ont, leur intention au niveau du gameplay, par rapport à ce qu'ils ont décidé de changer, etc. Je veux dire, si c'est juste pour avoir un jeu plus beau, pour ce qui me concerne en tout cas, je trouve que le jeu original n'a pas tellement vieilli, je vois pas l'intérêt. Voilà.
Oui, ça n'a pas vieilli pour toi parce que t'as connu le jeu à l'époque, mais parce que là je suis en train de regarder des images du jeu, quand même ça fait PlayStation 1, PlayStation 2, quoi. Quand tu vois
ouais, mais tu vois, je suis pas d'accord parce que il y a des jeux que j'ai fait à l'époque que je trouve extrêmement moche. Hein.
Ah oui, non, mais ça,
et que j'ai beaucoup aimé pour autant.
Je suis d'accord, mais c'est pour dire que nous, on a connu cette époque-là, mais tu sais, les gens qui ont pas joué à cette époque, ou même, si tu sors un jeu avec des graphismes comme ça, les gens, ils vont dire, putain, mais c'est, quand tu regardes l'environnement, tu vois, c'est vachement carré, quoi, c'est cubique.
Je suis d'accord avec toi, mais est-ce que c'est les gens qui vont aller sur Kickstarter pour contribuer à ce projet? Parce que, moi, honnêtement, les jeunes générations, je pense que Outcast, tu vois, elles connaissent pas. Et puis honnêtement, c'est pas ce qui est, avec ce qu'ils montrent dans la vidéo que ça va les convaincre d'investir, tu vois. Donc c'est qui vont convaincre? C'est les connards comme moi qui sont nostalgiques. Enfin, pas forcément nostalgiques d'ailleurs,
mais. Là, je suis bien d'accord, mais quand le jeu sortira, je veux dire, tu sais, parce que le jeu quand il est financé, c'est bien, mais après il faut qu'ils arrivent quand même à le vendre un peu plus pour pérenniser l'histoire, quoi.
Oui, mais il faut le financer à la base. C'est bien ça le problème.
C'est vrai.
Et moi, ce que j'ai vu là, par rapport aux réactions sur le Kickstarter, c'est des gens qui disent, si ça avait été le 2, j'aurais contribué. Mais là, c'est un remake du 1. Là, comme ça, j'ai pas vu d'argument massu qui me donne envie de backer. Ben, je back pas.
Le 2, il est jamais sorti.
Ouais.
Oui, non, mais c'est ce que je dis.
Ouais,
c'est d'accord. Les gens disent, moi, si ça avait été le Kickstarter pour Outcast 2, j'aurais backé. Tu vois, parce que ça aurait été nouveau.
Ouais.
Avec un gameplay moderne, etc. Le remake du 1, il voit pas l'intérêt. Donc, ça veut dire que, en tout cas, dans ce qu'il présente, il n'y a pas la valeur ajoutée, l'argument massue qui fait dire, ah ouais, franchement, ça manquait au 1, le remake, il veut le coup, il faut absolument que je back le projet, quoi. C'est-à-dire que, si tu veux, l'argument des graphismes, en tout cas, pour certaines personnes, c'est pas un argument. Et j'irai même plus loin, j'ai vu des réactions où les gens disaient, alors, oui, c'est joli, mais, par contre, il y a un souci, c'est que les décors font extrêmement vide. Parce que, ils les reproduisent tels quels, sans ajouter d'éléments. Et du coup, on se trouve avec des décors extrêmement épurés, en fait. C'est pour ça que je vous incite vraiment à aller voir la vidéo.
Ouais, bah là justement, je regardais un peu en même temps la vidéo, et c'est déjà bien quand on voit qu'ils ont dès le deuxième update, parce que j'avais pas vu justement dès le deuxième update mis quand même cette vidéo où on voit justement les graphismes. Donc c'est quand même encourageant à voir s'ils vont améliorer ensuite, comme tu l'as dit, les phases d'action. Mais enfin, moi personnellement, ça me paraît déjà assez beau, mais c'est vrai que comme tu disais, les décors sont assez vides. Après, ça reste juste un prototype
oui, on est d'accord.
D'une map. Donc après, il y a quand même de l'évolution, des PNJ, des structures à ajouter.
Si tu veux, parce qu'il y a le texte qui va avec la mise à jour, et c'est pas du tout clair dans le texte en fait qu'ils vont rajouter des éléments, quoi. Pour l'instant, de ce qu'ils disent, c'est juste on reprend les décors et on les fait en plus beau, quoi. Il n'y a pas d'éléments qui, en tout cas, incitent à dire que, ah, peut-être qu'ils vont vraiment retravailler à fond les décors, tu vois. Mais après, moi, par exemple, je sais que pour moi, sur mon cas personnel, ça me dérange pas les décors épurés. Je trouve même que ça fait partie du charme, du cachet de l'original, quoi. Et que les surcharger comme ça, je pense pas que ça collerait, en fait, au truc, quoi. Faudrait vraiment revoir la direction artistique, etc. Et même d'une manière générale, je suis assez attiré par la vidéo, parce que ça fait, tu sais, très décor par la main, en fait. Au niveau des couleurs, c'est des couleurs assez chaudes, etc. Enfin, c'est très agréable à l'œil, je trouve. Mais malheureusement, c'est pas ce que j'attends, quoi. Enfin, bref. Donc, voilà. Ah oui, aussi, une dernière critique. Mais ça, les mecs, ils sont pas pour grand chose. J'en ai bien peur. C'est que ils partent avec un handicap, c'est qu'ils n'ont pas bossé sur des gros projets ces dernières années, les développeurs du studio. Leur dernier grand jeu, c'est Outcast, quoi. C'est pas comme certains studios, genre Chris Avellone avec Obsidian. Je veux dire, il a fait Fallout New Vegas, il a fait Alpha Protocol, etc. Alors que là, eux, vraiment, t'as l'impression que leur CV, en tout cas dans le domaine du développement de jeux, parce qu'apparemment ils ont pas mal bossé ces dernières années sur leur moteur en fait qui sert pour ce projet-là, mais en termes de développement de jeux, leur dernier grand jeu intéressant, c'est Outcast, quoi. Et ça date de la fin des années 90 quand même. Hein. Donc voilà, ouais. Ça joue pas en leur faveur non plus, et c'est pour ça qu'à mon avis, ils vont devoir être très concrets pour convaincre les gens, quoi. Bon, allez, assez parlé, on passe à la suite. Dwayne, alors, explique-moi là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Apocalyptica 4, hein, donc c'est fait par le studio Roll7, qui est à l'origine de d'autres petits jeux sur tablette, ou un jeu de skateboard que les gens jouent assez en ce moment, qui s'appelle Holy Holy. Apocalyptic 4, donc c'est un espèce de jeu qui pourrait ressembler à, pour ceux qui connaissent, donc comme tu l'avais dit tout à l'heure, Gunpoint. C'est vraiment de l'action très rapide, on est sur un style en 2D vu de côté. Donc
je précise, Gunpoint sans les phases de puzzle. Parce que quelque part, Gunpoint, voilà, c'est quand même un puzzle game, quoi. Je veux dire, je vais relier tel switch à tel switch pour enclencher une caméra quand j'appuie sur ce bouton, tu vois. Alors que là, c'est vraiment de l'action pure.
Sachant qu'ils ont appelé ça Apocalyptic 4 lors de la présentation, mais ça pourrait s'appeler lors de la sortie Not a Hero. Donc à voir, je pense que Not a Hero serait plus correct, mais bon. Peu importe, donc on est sur un jeu vraiment action, comme je l'ai dit, c'est vraiment 2D, on est sur quelque chose de très très rapide, avec plusieurs possibilités, par exemple on a des étages, et on va pouvoir justement jouer aussi avec les différents étages, donc passer du quatrième au deuxième.
Alors pour donner une image très simple, tu vois, c'est Bruce Willis qui prend une corde, qui défonce la fenêtre, qui descend les étages en dessous, qui redéfonce la fenêtre.
Voilà.
Moi par contre, je voulais te demander qu'est-ce qui t'a attiré dans ce projet.
Bah moi, qu'est-ce qui m'attire, c'est-à-dire que déjà le parallèle avec Gunpoint est quand même intéressant sur le côté un peu rapide, aspect un peu speedrun justement au niveau de l'action, après même si on s'en sépare par rapport au côté puzzle, et cet aspect action vraiment vraiment rapide, on est sur quelque chose qui a l'air à première vue assez fluide.
Par contre, le projet m'a pas du tout attiré, parce que honnêtement, je vois par exemple, tu prends Broforce,
Ouais.
Franchement, ça a l'air super pauvre comparé à Broforce, quoi, au niveau du gameplay.
Ah, mais si tu compares à Broforce, moi, Broforce, j'y ai passé déjà une quinzaine d'heures sur une bêta gratuite, donc.
Oui, mais justement, enfin, si tu veux, je prends deux jeux du même genre, tu vois. Broforce, un jeu d'action en 2D vu de côté. Avec un gameplay parce que tu peux détruire les décors, etc. Là, je prends ce jeu-là, si tu veux. Je mets Broforce à côté, je me dis, mais autant Broforce, je sais pourquoi je vais y jouer, autant celui-là. Alors, ok, tu peux faire des roulades par terre, tu peux passer d'un étage à l'autre.
Alors, bon, on va mettre des mots, là. Pour le coup, Broforce, ça sera un niveau, on va dire, excellent. Et Not a Hero, c'est sympathique à voir, quoi. J'ai trouvé ça sympathique. C'est pas jetez-vous dessus, ça a l'air génial. C'est si tu compares à Broforce, là je peux plus les comparer, quoi.
Bah, si tu veux, pourquoi je l'évoque aussi, ce sont deux projets qui ont besoin de sous pour évoluer. Et honnêtement, moi, si je cherche un projet de jeu d'action en 2D, a priori, bon, j'irai voir du côté de Broforce, tu vois. Moi, après, je veux pas foutre la merde, hein, mais.
Ah non, mais t'as totalement raison. Moi, Broforce, j'ai testé la bêta gratuite et j'ai payé juste après parce que j'ai dit c'est juste abusé, quoi. J'ai déjà passé une quinzaine d'heures sur un truc gratuit et c'est juste le début, quoi. Donc voilà, là, on va, si on doit choisir entre les deux, ben on va refaire de la pub d'ailleurs parce que y a encore des nouvelles fonctionnalités ajoutées à Broforce avec des nouveaux personnages. Donc si vous connaissez pas, allez voir, vous avez la bêta gratuite avec la possibilité de payer pour la précommande. Il est arrivé en Steam Early Access. Donc au final, ça devient une séquence Broforce. Voilà.
ATH?
La palette de couleurs, elle est juste horrible, quoi, en fait, du jeu.
Ah oui.
Vert et rose, violet, enfin, moi, je sais pas, je supporte pas juste la palette de couleurs. Et t'as pas dit pourquoi ça s'appelait 4, qu'est-ce que ça fait dedans, en fait?
Apocalyptic Cat, c'est ouais. En fait l'espèce de chat qui balance pour et puis il explose.
Non mais c'est, en fait c'est voilà. Un gimmick, hein. C'est juste ils ont mis un gimmick, chat qui faisait bombe, puis ils ont trouvé ça drôle, ils ont mis tiens on va mettre Cat dans le titre, quoi.
Ouais. Ok, mais sinon juste pour dire ouais, que je suis d'accord avec ce que dit Chirance. Moi le jeu il m'attire pas du tout, à part peut-être le petit aspect Die and Retry à la Hotline Miami, mais franchement pour l'instant il y a rien du tout qui me donne envie. Et je vais plutôt regarder Broforce qui m'intéresse plus là. Enfin, c'est gentil de parler de ce jeu là, mais je suis en train de me rendre compte qu'on est en train de le défoncer et pour faire de la pub à un autre jeu, quoi, en fait.
Bon bah voilà, c'était une séquence pour faire une feinte, tu vois. C'était genre je te présente ça, mais en fait Broforce c'est génial, quoi.
Non mais de toute façon en vrai Don il va quand même contribuer à Apocalyptic Cat, hein, je sens là. Il avait l'air chaud.
Non c'est pas.
De toute façon Game of Thrones c'est que des connards.
Déjà je sais pas s'ils vont, je pense pas qu'ils aient sorti un Kickstarter déjà parce que là ils ont juste présenté ça à la PAX, donc après je vais voir selon le prix si peut-être ils sortent un Kickstarter après, on verra bien, mais. Mais c'est juste un petit truc sympathique que j'ai vu et qui pourrait me plaire.
Moi, je dirais pourquoi pas en flash, mais payer pour jouer à ça.
Enfin bref, au départ, je pensais qu'on n'allait pas y passer 3 heures, mais en fait, si. Donc, on va passer à la suite du coup. Donc, vite fait, un Kickstarter sauvé de la noyade, Citizen of Earth, Dwayne.
Effectivement, donc Citizen of Earth, donc c'est un Kickstarter qui avait été lancé, donc qui demandait 100 000 dollars, ils en ont obtenu à peu près 30 000. Entre-temps, ils ont continué à bosser, donc ils avaient déjà la sortie sur Steam qui était annoncée, même au-delà, après l'échec du Kickstarter. Et finalement, donc Atlus les a repêchés, donc l'éditeur Atlus, et finalement donc le RPG va sortir sur toutes les plateformes PC, PS4, Vita, 3DS, je crois la Wii U aussi il me semble.
Je précise Asus donc Sega juste au passage.
Voilà. Donc c'est un RPG en fait qui va être un peu humoristique, beaucoup de gens le comparent à Earthbound d'ailleurs. L'aspect intéressant en fait c'est qu'il y aura pas de PNJ, c'est-à-dire que toutes les personnes que vous allez rencontrer, vous allez pouvoir les recruter. On joue le vice-président du monde et on va devoir recruter. Donc là, on n'aura pas de mages, de sorciers ou autres. On a en fait une quarantaine de personnages qu'on pourra recruter, qui auront chacun leur spécificité. Le boulanger, le vendeur de comics, enfin le n'importe qui. Donc c'est à peu près ça le concept. Est-ce que vous avez regardé vous un peu le...
Moi je t'avoue que ça m'avait pas du tout attiré. Enfin je suis pas déjà fan de Earthbound à la base. Je sais là j'ai une horde de fans de RPG qui va me tomber dessus.
Ah,
non, c'est pas un truc. C'est pas un concept qui me plaît. Enfin c'est.
Ouais.
Tu veux moi je fais partie de ces joueurs de jeux de rôle qui ont horreur de jouer Monsieur Tout le Monde quoi.
Ouais, je vois, ok.
Mais moi, en tout cas, rien que le concept, ça m'attire. Le jeu, il a l'air complètement loufoque et tout ça. En plus, ça, comme référence, t'as dit Earthbound.
Tu l'as terminé, Earthbound?
Le 3, en émulation, parce que malheureusement, il est pas sorti. Non, mais oui, il était en émulation.
Non, je déconne, là, hein, je dois être, parmi toutes les personnes ici, je dois être celle qui a le plus joué en émulation. Donc,
je l'ai fait en traduction française faite par des fans, parce que... Enfin, c'était même pas fait par des fans, c'était fait par des mecs qui travaillaient chez Nintendo, qui l'avaient sorti... Et Nintendo, ils avaient rien fait pour le bloquer, enfin bref. Mais en tout cas, celui-là, c'est un... Moi, je demande qu'à voir et j'espère qu'il sortira, quoi. Parce que, franchement, le concept, le pitch de départ...
Ah non, mais là, c'est pas... C'est bon, hein. Ça va sortir pour 2014, Atlus l'a repris, ça, y a aucun souci. Hein,
qui sortira, chez nous, quoi.
Ah oui, je pense qu'il y aura la... Ça, c'est assuré, vu qu'il y a la sortie... nord-américaine qui est sûre, donc en Europe, ça va
arriver. Non, je m'avancerai pas à ce point-là, à ce niveau-là, Dwayne. C'est pas du tout sûr que parce qu'il sort aux États-Unis qu'il va sortir chez nous, hein. Ça serait pas le premier jeu Atlus, d'ailleurs, qui sortirait aux États-Unis, pas chez nous, en fait. Mais...
Bah, c'est pour ça que je dis ça, parce que Atlus, je les connais un petit peu,
bon,
quand
après...
même. Hein. Et ils sortent, ça dépend de certaines licences et tout ça. Il y en a qui sortent que dans certaines parties du monde et pas d'autres. C'est pour ça que j'ai dit j'espère qu'il sortira chez nous, à petit prix, parce que, voilà quoi, si le jeu est décevant.
Bon, après, il y a toujours moyen de faire de l'import de toute façon.
Non mais de toute façon, il sort en boîte ou en démat?
Ça sera en démat.
Il va sortir. Par contre, je suppose que ce sera en démat. Hein.
Ouais.
Il me semble
oui,
que ce sera plus.
Oui, parce que vous parlez d'import, le démat, hein, import. Bon, voilà quoi. À moins d'avoir compte PlayStation Store US, enfin c'est compliqué quoi. Bon, si on sort en démat, par contre, il y a plus de chances qu'il sorte. Enfin bref, je vous propose qu'on passe à la suite là, parce qu'encore une fois, on est en train de s'étaler. Au moment où vous avez quelque chose à ajouter.
Non.
Non, c'est bon.
Alors ATH, non excusez-moi, le moment où ATH s'énerve, c'est pas encore maintenant. J'avais sauté 2-3 lignes. ATH, tu restes là, je reviens, d'accord?
D'accord, pas de souci.
Donc H1Z1, j'ai failli dire H1N1. Ça va être très dur, je vais pas prononcer ce titre souvent parce que il y a forcément un moment où je vais dire une connerie. Donc H1Z1, c'est un clone de DayZ, très clairement. Qui a été annoncé par Sony. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, c'est pas très étonnant, hein, quand on voit que des jeux comme Rust et DayZ sont dans les premiers top des ventes de Steam depuis des mois et des mois. Hein, je veux dire, à un moment donné, il y a forcément un éditeur qui allait se dire que, oh, tiens, ça a l'air marrant, ça. Ça a l'air de bien marcher. Donc, forcément, Sony a bien préparé son coup, puisqu'ils ont annoncé cette semaine un espèce de DayZ plus, vu qu'en fait ce sera un MMO avec donc possibilité de construction, etc. où il y aura différentes règles établies sur les serveurs où vous pourrez vous connecter. On imagine que quelque part il y aura de la permadeath, hein, forcément, parce que s'il n'y a pas de mort permanente, je veux dire, c'est moins marrant pour ce type de jeu. Bon, en dehors du fait que c'est un move opportuniste qui s'inscrit dans la lignée de tous les studios indés récemment qui se sont engouffrés dans la brèche, mais bon, on va pas leur jeter la pierre, hein, je veux dire, tout le monde fait des FPS, alors pourquoi tout le monde ne ferait pas des jeux de survie, n'est-ce pas? Vous en pensez quoi? Moi, je trouve ça pas mal, parce que si ça se trouve, pour une fois, enfin, on va mettre un bon coup de pied au cul de DayZ et les mecs vont se bouger un peu, quoi. C'est un peu comme Project Zomboid à une certaine époque. Bon, depuis, ils ont sorti le multi, heureusement, mais ça a pas l'air de beaucoup bouger, quoi, on va dire.
Bah, c'est ça le problème sur tout ce qui est Early Access. C'est qu'il y a des moments, il y en a qui sont pas mal. Bah, on a parlé de Broforce, par exemple, là, qui sort, qui arnaque pas, en fait, le joueur. Et il y en a d'autres qui sont sur des modèles où tu te demandes à quel moment on va avancer. Et si au final, est-ce qu'ils vont vraiment sortir le jeu complet, vu qu'au final, ça fonctionne tellement bien en Early Access, donc est-ce qu'ils vont pas rester à se tourner les pouces? Et pour H1, enfin bref, le jeu de Sony, déjà visuellement, ça a l'air pas mal.
Ça ressort quand même beaucoup à DayZ, hein.
Ah oui, vu, franchement, c'est vraiment une copie. Si ça sort avant, ça va être dur, franchement, pour DayZ.
Bon, DayZ avec des vraies animations, hein, je précise, pour rassurer les gens.
Non, mais là, ça serait vraiment un coup dur pour DayZ s'il sortait avant en complet, sans bug.
Parce qu'on précise, il sort sur PC aussi, hein.
Après, moi, de toute façon, tout ce qui est MMO et MMO FPS encore plus, c'est moins ma cam. Mis à part l'aspect survie qui peut être intéressant si la mort permanente est, comment dire, si elle est inclue dans le jeu, quoi, parce que là, comme tu l'as dit, on sait pas si elle y est ou pas. Et surtout, j'ai pas envie que ça ressemble le jeu à DayZ, parce que j'ai déjà vu des vidéos de DayZ. En fait, en gros, t'apparais, il y a des mecs qui viennent et te butent. Puis voilà. Le jeu, c'est ça. T'apparais, tu te butes, ou bien dès que tu vois un mec, tu le butes, et finalement, en fait, les zombies, tu t'en fous. Quand tu rencontres un personnage qui est joué par un autre joueur, c'est là où tu fuis plus, quoi.
Bah, moi, justement, c'est, contrairement à toi, c'est ça qui m'attire dans DayZ, en fait. C'est putelante, quoi. C'est pour ça que j'aime ce jeu. C'est putasserilante, quoi. Et c'est ça qui m'a fait, enfin, j'ai adoré, quoi. Bon, après, c'est vrai que, par moment, DayZ peut prendre un aspect de FPS classique, quoi, on va dire, sur une map où tout le monde se tire dessus dès qu'il se voit. Mais il y a quand même certains moments, tu vois, où t'arrives devant un mec, est-ce que je lui tire dessus ou pas, t'hésites, ou chacun recule de son côté, doucement. Enfin, rien pour ces moments-là, tu vois, qui sont uniques.
Il faut pas hésiter, faut tirer à vue d'œil.
Enfin bref, par contre, moi, il y a un point qui m'inquiète sur leur truc, c'est que apparemment, ce ne sera pas genre sur une map, tu vois, ce sera vraiment un monde en lui-même, quoi. Le terrain de jeu, c'est un monde, quoi.
Donc, c'est plutôt bien, ça, non?
Ouais, c'est bien quand les serveurs sont pleins.
Ouais.
DayZ, c'est vraiment un jeu où la carte est conçue de telle façon qu'à un moment donné, tu vas devoir aller dans un endroit où tu sais que tu vas devoir prendre des risques. Genre, tu veux choper des armes, faut que t'ailles à la base militaire, ce genre de choses. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à reproduire ce game design-là dans le jeu pour recréer ces points de tension? Déjà, ça c'est le premier point. Et quand bien même ils réussiraient à les reproduire, si les cartes sont trop grandes par rapport à la population du serveur, tu vas te faire chier. Parce que tu vas jamais croiser personne, quoi.
Oh, mais bon, pour un MMO, ils vont pas mettre une petite, tu vois, c'est, si ils font un MMO, s'ils mettent une petite map, tu fais le tour en 5 minutes,
Non, mais je suis d'accord, ATH, mais il y avait d'autres solutions. Par exemple, faire un seul serveur comme EVE Online. Voilà. Tous les joueurs sont sur le même serveur. Et, enfin, voilà, au moins le serveur est peuplé, quoi. Là, faire 36 000 serveurs avec des règles custom, machin, bidule. Ouais, moi, j'ai peur qu'au bout d'un moment, en fait, cette formule-là, ça marche quand chacun son petit serveur de son côté, quoi, et que ça se déroule sur une map. Si les maps sont trop grandes, moi, je te dis, tu vas te balader dans le truc, il y aura personne, quoi. Déjà, ça se voit sur les MMO classiques. Alors, sur un MMO comme celui-là, où tout le sel vient du fait des rencontres avec les autres joueurs, ça va être compliqué, quoi. Bon, messieurs, je vais vous demander, en une phrase, votre avis sur le module Dogfight de Star Citizen. Attention, Dwayne, tu commences.
C'est beau. C'est bien au niveau de... Bon, non, pas en une phrase, attends.
C'est riche, là.
La présentation a été faite à la PAX, effectivement. Au niveau des de la physique, c'est vraiment pas mal. Après, c'est vraiment un module de présentation pour faire patienter les fans, donc au final, on n'a pas plus de nouveautés que ça, mais dans tous les cas, graphiquement, c'est très beau et j'attends d'en voir plus. Voilà.
Alors moi, je vais faire court. Moteur physique très impressionnant, c'est très réaliste. Par contre, les astéroïdes en mode ah tiens, il y a mon vaisseau qui le percute à pleine vitesse.
Boing.
Il se passe rien. Enfin boing. Voilà, en mode babal, ça va pas être possible. Voilà. ATH.
J'aime bien Dwayne, parce que tu lui demandes de faire ça en une phrase, il fait une intro. Mais moi, j'ai rien d'autre à dire à part ce que vous avez dit, je suis d'accord avec vous.
Voilà. Donc, on va pas plus développer que ça, parce que honnêtement, ce sera bien de voir comment ça se joue vraiment quand il y a deux joueurs qui se pourchassent dans un champ d'astéroïdes et qui se tirent dessus, quoi. Ouais. Voilà, parce que après on a vu par exemple des petites features genre ils peuvent exploser les astéroïdes, enfin voilà, ça a l'air intéressant tout ça. Moi j'attends de voir ce qui va vraiment se passer quand il y aura plusieurs joueurs au même endroit qui vont se taper dessus. Donc en fait concrètement, on attend la release du module déjà pour en parler un peu plus sérieusement, n'est-ce pas? Bon, ATH, ouais. Les pros sont bien préparés, là c'est bon, t'es chaud?
Ouais, bah tranquille, hein. Bon, on va parler de Borderlands, donc
The pre-sequel.
Oui, c'est ça, donc oui. Borderlands Origin. Ah non, Borderlands Révélation. Ah merde, j'ai pas d'idée pour le titre. Ah oui, bah on va mettre pre-sequel quoi, histoire d'embrouiller les gens quoi. Ça se passe entre le 1 et le 2. Et ils pouvaient pas faire 1.5, ils se sont dit non, c'est trop compliqué. T'as vu, on va embrouiller le joueur, pam pam. Bon, à part que j'ai vu la vidéo de gameplay, bon, ça me fait vraiment penser à un putain de DLC. Déjà, à la base. Non mais sérieux, c'est...
Non mais qu'on soit clair, genre c'est un DLC quoi.
Ouais,
non,
mais là, c'est un DLC qui sort en version boîte et dit c'est un nouveau jeu. Bien sûr que bah, oui.
Après, je veux dire, à une époque ça existait les standalone. Hein.
Ouais, oui, ça existait les standalone, mais après bon, s'ils le vendent au même prix que les standalone à l'époque, il y aurait pas d'arnaque pour les gens qui voudraient l'acheter. Mais pourquoi dans ce cas-là ils le sortent pas en tant que DLC pour Borderlands 2 quoi. Le dernier jeu qui est sorti, ils sortent la pré-sequel, tu télécharges comme tu fais d'habitude pour tous les DLC à la con là que tu fais. Et puis tu joues à pré-sequel sans acheter ce jeu-là quoi. Tu peux très bien le faire.
Je veux dire, ce que je voulais dire à TH, c'est que le prix on l'a pas encore. Donc avant de juger, faudrait peut-être voir le prix aussi, non?
Ouais, mais bon, enfin en tout cas, c'est juste pour dire que les mecs, ils avaient besoin de renflouer les caisses. Et je pense pas qu'un jeu qui va sortir en boîte, ils vont te le faire à, allez, maximum, ils vont te le, mais enfin minimum, ils te le feront à 50 balles. Ils te le feront pas moins cher.
Ah, écoute, on sort bien des démos à 30 euros. Ah merde, excuse-moi.
Oui, mais bon, après là les. Ça c'est, je vais en revenir plus tard quand on parlera de Last of Us justement.
Ok, alors je sens qu'il est chaud aujourd'hui à TH. Alors moi j'ai un souci, je veux dire ça va se passer sur la Lune. Alors à gauche, tu vois, il y a le cratère gris clair, à droite le cratère gris foncé. Enfin, enfin voilà quoi, la Lune, je veux dire c'est pas forcément l'environnement le plus bandant pour faire un jeu. Bon après tu me diras. Il y a moyen de faire genre des espèces de stations à l'intérieur, les décors sont variés quoi, je veux dire c'est pas totalement rédhibitoire non plus, mais j'espère qu'ils vont sortir les doigts pour faire quelque chose à ce niveau-là quoi. Dwayne,
franchement déjà comme on l'a dit, le brainstorming pour trouver le titre devait être assez risible. Et non, dans tous les cas un petit 1.5 pour faire de la thune avec l'équipe B de 2K Australia, ça sent vraiment le petit truc entre deux, comme tout ce qui est Batman Origins, où on prend la Team B pendant que la A est en train de travailler sur un Next Gen.
Il sort sur Next Gen ou pas d'ailleurs?
Non, c'est vraiment un jeu 360, PS3, PC.
D'accord.
Bon, j'ai pas envie de faire mon troll, mais ça me rappelle Saints Row 4. J'y ai joué 2 heures... J'ai pas pu continuer à jouer à ce jeu. C'est de la
merde. Vous allez pas recommencer tous les deux, hein.
Ah, c'est pour ça, t'as vu, moi, je dis rien avec ce trocat. Non, au niveau des nouveautés, qu'est-ce qu'on aura? Ils auraient pu appeler ça aussi Handsome Jack Origins. Parce que ça va reprendre un peu son histoire avant le 2. On aura 4 héros différents avec la possibilité de jouer Claptrap. Vous sentez l'enthousiasme.
Non, mais c'est Claptrap femelle, hein. Yeah. Alors là, attention.
Attendez, les mecs, cachez votre enthousiasme, là. On pourrait croire que vous êtes intéressés.
Il y a aussi un jetpack. C'est bien, les jetpacks, non? c'est comme ça que le joueur, Andy Pitchford, tu sais, dit, c'est bien, les jetpacks. Non, c'est nouveau.
Bon, on a passé trop de temps sur Borderlands, je pense qu'on a autre chose.
Ouais, allez.
On passe à quelque chose de plus intéressant, Civilization Beyond Earth. Alors, en gros, c'est Civilization dans l'espace, c'est un successeur spirituel à un jeu Sid Meier qui était sorti à l'époque, comment ça s'appelait? Alpha Centauri. Voilà. Donc là, quand j'ai évoqué ce nom, je pense qu'il y a plein de fans de Civilization qui sont en transe. Et d'ailleurs, l'ironie histoire, pour note, c'est que à l'époque, Alpha Centauri, il ne l'avait pas appelé Civilization. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas les droits à la licence. Pour aujourd'hui, pourquoi ils n'appellent pas ce jeu Alpha Centauri? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les droits de la licence. Voilà.
La boucle est bouclée.
Enfin bref. Donc civilisation dans le futur, tu vas devoir coloniser une planète alien, n'est-ce pas? Alors concrètement, le trailer, on voit que dalle dessus. Juste pour dire que, alors ceux qui disent notamment le fait que par exemple, il va y avoir une espèce de narration dans le gameplay. Quand tu vas tuer un espèce de ver géant, par exemple, t'auras son cadavre qui va enclencher une nouvelle quête, etc. Enfin bref, ça a l'air pas mal. J'aime beaucoup la direction artistique aussi, qui est très épurée, mais qui en même temps est, a des couleurs vraiment sympas. Enfin, la palette de couleurs est très bien choisie, je trouve. Elle est assez chaude, mais on vire pas non plus dans l'exagération ouais. Comme un certain jeu avec chat dans le titre qu'on a évoqué tout à l'heure. Bref, ça a l'air sympa. Et puis de toute façon, civilisation dans l'espace, on aime ça, Dwayne, non?
Ah bah ouais, c'est vraiment l'évolution logique. Il y a un concept assez intéressant, ce qu'ils appellent les affinités. Donc ça va être en fait un espèce de... pas une doctrine, mais une espèce de religion, une façon de vivre que tu vas choisir pour ton peuple. C'est harmonie, suprématie et pureté, c'est-à-dire que t'auras soit avec suprématie, moi je pense que c'est comme ça que je vais jouer, un aspect avec une expansion assez rapide, des robots, des machines. Pureté, c'est vraiment un peu sectaire, où tu vas rester sur... par exemple, quand tu vas rencontrer des races aliens, toi, tu vas rester sur ton idée de la civilisation. Et harmonie, ça va être plus... ça parle de lui-même, c'est-à-dire être en harmonie avec la civilisation que tu colonises. Donc, c'est vraiment...
des putains de hippies, quoi.
C'est vraiment super, super intéressant.
Ils mangent bio. À
ce niveau-là, il y aura effectivement une évolution aussi au niveau du gameplay... avec la possibilité de d'avoir une supériorité stratégique en jouant l'orbite. Enfin, c'est vraiment, moi je suis vraiment emballé.
Par contre, juste je voulais poser une question, parce que moi je l'avoue, je n'ai pas du tout joué à Alpha Centauri. Est-ce qu'ils ont dit si on pourrait coloniser plusieurs planètes ou c'est sur une planète en fait?
Par rapport à ce qu'ils ont dit, ça serait plutôt une planète.
Ouais, ça me paraît après, plus cohérent parce qu'ils ont annoncé.
Voilà. Sachant que ça fait quand même un moment pour les fans, ça fait 4 ans si on compte pas tous les DLC qu'on n'a pas eu de civilisation. Donc moi après la seule chose c'est que au départ j'attendais un nouveau XCOM et au final lorsqu'ils ont dit civilisation mais dans l'espace, j'ai dit ah ouais, c'est logique donc j'attends.
Bah, il faut dire que XCOM ils en ont sorti un il y a pas si longtemps que ça il me semble. Bon, c'était pas
oui, le DLC.
Jeu stratégie, mais
d'ailleurs que j'ai pas fait, mais qui enfin tout le monde dit qu'il est pas mal, le Enemy Within. Donc à voir.
Il était gratuit d'ailleurs sur le PSN il y a pas longtemps pour ceux qui l'avaient, s'ils l'ont téléchargé.
Dwayne, Fortnite, s'il te plaît.
Alors Fortnite, hein, donc c'est quelque chose qui a été annoncé il y a un moment. C'est-à-dire que c'est
c'est même une putain d'Arlésienne, tu veux dire quoi?
Ouais, c'est-à-dire que c'est Cliff Bleszinski qui l'avait présenté à l'époque, c'est pour dire. Donc c'était censé être le premier jeu sur Unreal Engine 4.
Et donc surtout, censé être le retour en grâce d'Epic Games sur PC, vu que c'est censé être une exclu PC à la base.
Voilà, donc on est sur un free-to-play. Après, moi, ça me gêne un peu à ce niveau-là. Après, il faudra voir l'aspect... Non, c'est-à-dire que voilà, il faudra voir l'aspect économique, comment ils vont gérer ça.
Parce que je veux dire, si c'est comme en Dota 2, ça pose pas de souci. Hein. Dota 2,
voilà, exactement.
C'est
si
purement
c'est uniquement,
cosmétique. Hein.
Voilà, si c'est purement cosmétique, ça peut être bon comme dans Dota 2, comme tu l'as dit. Tant que ça reste esthétique, pour moi, il y a aucun souci. Donc, c'est même... encore mieux d'ailleurs.
Parce que je veux dire, il y a un souci aussi. Faut voir avec les jeux uniquement multi comme ça, c'est qu'au bout d'un moment, les serveurs se vident. Je vois avec tous les jeux indés que j'ai en multi là, notamment des jeux qu'on a joué ici à la rédac. Au bout d'un moment, il n'y a plus personne. Donc, est-ce que le free to play c'est pas la solution justement pour maintenir une communauté, au moins minimum quoi, on va dire?
Effectivement, c'est-à-dire que là, avec si on est sur un free-to-play purement cosmétique et qu'à côté le gameplay se renouvelle constamment, que ça engrange tout de même des bénéfices constants, Et effectivement, à ce niveau-là, ça pourrait pérenniser, on va dire, le jeu. Donc, pour reprendre rapidement, Fortnite, on est sur un jeu en mode TPS où on va construire, voilà, son fort en coopération pour pouvoir ensuite se défendre la nuit contre des invasions, donc de monstres ou autres. Donc, on est vraiment sur un système de construction très très rapide où on va pouvoir construire vraiment mur par mur. Enfin, on est vraiment sur un système fait pour les gens qui n'ont pas, on va dire, t'as pas besoin d'être aussi créatif que dans d'autres jeux de construction. C'est-à-dire qu'on va pouvoir construire des choses vraiment de haute volée sans avoir de compétences à ce niveau-là.
Ça ressemble énormément, je trouve, à l'espèce de tower defense, en fait, ce que tu construis ta base à la place, quoi.
Voilà, donc il y a effectivement un espèce d'aspect tower defense à ce niveau-là, sachant que les mécanismes, on est sur quelque chose d'assez dynamique. À ce que j'ai vu, on a au niveau des déplacements, on est sur quelque chose d'assez fun avec des longs sauts qu'on pourra faire entre les différents forts. C'est-à-dire qu'on est sur vraiment une coopération où on va pouvoir, par exemple, si vous faites chacun de votre côté un fort différent et qu'avec des amis vous voulez vous réunir, donc vous pourrez réunir vos différents forts et en créer un plus grand pour pouvoir ensuite vous défendre de manière optimale contre les invasions. Donc dans tous les cas, voilà, la grosse annonce, c'est que ça va être un free-to-play, que Fortnite est donc toujours d'actualité, hein, vu que c'était devenu, comme tu l'as dit, une arlésienne. Donc ça m'a l'air plutôt intéressant à voir après le modèle économique, comment ça va être agencé. Moi, ça va être un des principaux facteurs qui va faire son succès ou non.
ATH, alors si tu vas être agressif, je vais te prier d'être court quand même. The Last of Us sur PS4.
non, c'est pas pour être agressif, c'est juste pour vous dire que la génération PlayStation 4 et Xbox One, il nous prépare une belle génération de merde, je pense. Vu que, déjà, il y a le fait que le report HD de, enfin, HD++ de Tomb Raider qui est sorti. Là, on a The Last of Us. Le jeu n'a même pas encore un an. Il est sorti au mois de juin l'année dernière, en 2013. Il y a déjà un nouveau portage sur les prochaines consoles.
En quoi c'est étonnant? Parce que ça a toujours été comme ça, je veux dire.
Dans les anciennes générations, c'était pas comme ça, quoi. Le jeu, il avait été fait
Attends, tu veux que je te parle des jeux dans les années 80 qui sortaient sur tous les supports imaginables différentes générations?
Celui-là, il pouvait sortir, à l'époque, il sortait sur plusieurs générations, etc. Mais, je voulais dire, quand t'avais un jeu, t'avais Super Mario 3, 3D World sur Super Nintendo, tu l'avais pas sur Nintendo 64, quoi.
Non, mais je veux dire, il y a des jeux d'éditeurs tiers qui sortaient sur différents supports entre les générations. Enfin, quand les générations se chevauchaient, c'est normal, quoi. Par exemple, voilà, Sonic, il me semble qu'il est sorti sur Master System, par exemple.
Ouais, mais donc ce que je reproche, c'est plutôt, c'est que les mecs, ils ont écoulé leur jeu sur PlayStation 3, et que là, quand la version plus arrive, bah ils te l'ont pas dit à l'époque. Sinon, les gens, ils auraient attendu. Peut-être ils l'auraient pris sur PlayStation 4, tant qu'à faire.
Pareil. Mais que... Non, mais là. Là tu déconnes, franchement.
Je termine. peut-être qu'à l'époque il le faisait aussi et tout ça, mais là je trouve qu'on est vraiment dans une beaucoup d'éditeurs et de développeurs, et bah ils en ont rien à foutre maintenant des joueurs. Quand t'achètes ton jeu Day One, bah tu te fais entuber encore plus parce que 6 mois après t'as la version GOTY qui arrive avec tous les DLC, etc. Le jeu il est moins cher en plus. Donc le mec
qui achète. Mais ça on le sait, ATH.
C'est pour ça que je pousse mon coup de gueule. Ils sortent des démos de Metal Gear Ground Zero à 30 balles. Alors au début, heureusement qu'ils l'ont baissé parce qu'au début, ils voulaient le vendre quand même 40€, je le signale. Ils l'ont baissé à 30€ parce qu'ils ont dit 40€ c'était vraiment du foutage de gueule. Ils ont dit qu'on pouvait enculer les joueurs, mais on va y aller progressivement. Donc la prochaine fois, ce sera quoi? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Enfin, je trouve que voilà, maintenant, il y a des pratiques là qui sont, ça commence à devenir vraiment n'importe quoi. Et c'est pour dire que les prochains jeux, ça sera mieux d'attendre qui d'avoir une version plus au rabais, quoi.
Ce que je te dis que ça, enfin, ça date pas d'hier. Enfin, moi, ça fait des années que je n'achète plus des jeux en neuf. Hein. Enfin, parce que tu vas l'avoir 6 mois plus tard à 10€, quoi. Ouais. Voilà, n'importe quel joueur sur PC, en tout cas, fonctionne comme ça. Après, je sais pas sur console, parce que ça fait un moment que je n'achète plus rien sur console, mais honnêtement, Je suis pas sûr que ça va changer grand chose. Toi, peut-être que ça te pose problème, mais je pense qu'il y a un certain nombre de personnes, en fait, qui savent très bien que de toute façon elles sont intubées Day One, mais qui ont tellement envie de jouer au jeu que de toute façon elles vont payer. Donc, après, encore une fois, je dis pas que c'est bien, attention. Je dis que bon, voilà, c'est malheureusement c'est comme ça et qu'on va pas pouvoir y faire grand chose, quoi.
Non, mais ce que je comprends pas, c'est que le mec il achète la version Day One, surtout, bah il a pas le droit au DLC, etc., etc. Alors que c'est lui qui a soutenu le, l'éditeur, qui lui a donné l'argent.
Et, moi, je pense que tu as raison. Bah, ça.
Parce que là, tout le monde se plaint, on vend pas assez de jeux, on vend pas assez de jeux, on vend pas assez de jeux. Mais c'est avec des politiques commerciales telles que celle-ci, je suis désolé, mais ça encourage pas à acheter le jeu Day One, et après, il y en a beaucoup qui...
En gros, il faudrait qu'ils prennent exemple sur Faster Than Light, quoi. Qui a sorti récemment un super gros DLC qui a ajouté plein de trucs au jeu, quoi.
Pourquoi pas?
Enfin, voilà. Moi, je suis sur ce point-là, par contre, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Alors, par contre, qu'on s'entende bien, ça dépend du DLC, hein. Je veux dire, Balade de Gatling de GTA, par exemple, je veux dire, tu vas pas l'avoir gratuitement, c'est pas possible. Hein. C'est pratiquement un jeu à part entière, je veux dire, c'est faut pas déconner non plus. Mais des DLC qui rajoutent des éléments de gameplay, ouais, moi je trouverais ça normal effectivement que les personnes qui l'achètent Day One soient récompensées plutôt que les personnes qui l'achètent d'occasion. En plus, justement, il paraît qu'ils veulent lutter contre l'occasion. Ah bah voilà, c'est une bonne occasion.
Bon, voilà, c'était juste pour sortir le petit coup de gueule.
Non, mais c'est clair, non, t'as raison sur certains points. Après, le truc, c'est que, d'un point de vue commercial, de toute façon, ils vont jamais te dire, par exemple, on prend l'exemple de Last of Us, ils le sortent sur PS3, ils vont pas te dire, on va sortir la version PS4 dans quelques mois, tu vois, c'est...
S'il vous plaît, n'achetez pas notre jeu, merci.
Voilà, c'est, en gros, c'est comme s'ils disaient ça, quoi, donc ça... De ce point de vue-là, ça a pas d'intérêt. Après, ce que tu dis pour les DLC, bah oui, bien sûr, c'est clair que c'est débile de voir qu'une personne qui ne soutient pas dès le départ va payer moins cher son jeu et à côté avoir tous les DLC, alors qu'une personne qui a soutenu dès le départ a le droit de payer plus, quoi. Donc c'est un peu débile à ce niveau-là. Mais bon.
Ah, j'aime beaucoup la formule.
Ça, je pense pas que ça va changer.
Ouais, malheureusement.
Ouais, malheureusement, hein, je suis d'accord.
Bon, on passe à la suite.
Ouais. Ouais, vous allez beaucoup me troller, mais bon, c'est pas
ah ouais,
grave.
Non, mais écoutez, moi, j'arrive tout à l'heure, réunion de la rédac, tout ça, ok, les mecs, on va parler de quoi? Moi, j'aimerais bien parler du Nintendo Direct. Ah bon, tu vas dire quoi dessus? Oh ouais, écoute, moi, j'ai trouvé ça super cool. Silence de mort.
Non, mais, laisse-lui argumenter.
Presque entendu les mouches voler à ce moment-là.
Laisse-lui argumenter avant de commencer à le descendre, s'il te plaît. La parole est à la
mienne. Écoute, là, pour le moment, j'ai pas trollé. Je n'ai fait que décrire la scène. Voilà.
Je vous ai vu, monsieur. Je vous ai vu. Attention. C'est un petit coup bas. Laissez monsieur l'accusé Edouane se présenter, s'il vous plaît.
Donc, maintenant, alors, on va pouvoir passer au procès d'Edouane, hein. Accusé, levez-vous. C'est quoi votre argument pour vous défendre, comment vous pouvez apprécier cette chose?
Non, franchement, moi, le Nintendo Direct spécial Smash Bros, donc au départ, j'étais pas franchement emballé, parce qu'aucun Nintendo Direct ne m'avait plu jusqu'ici, parce qu'il y a plein d'annonces un peu inutiles à gauche, à droite. Donc là, ça reste... effectivement, il y a des annonces qui sont un peu moins importantes que d'autres, donc je reprends très rapidement... Au niveau du Nintendo Direct, donc on a déjà dès le départ donc les versions qui sont annoncées, donc la version 3DS de Smash Bros qui va arriver cet été, avec celle de la Wii U qui devrait arriver vers la fin d'année, mais bon, ça serait pas du tout étonnant que ça soit repoussé à 2015.
Quoi ?
Donc
quoi, pardon, attends, j'ai bien entendu là, ce serait pas étonnant que ça. Attends, mais ils vont jouer à quoi les joueurs de Wii U là? Non, bon, ok, je troll, c'est vrai.
Franchement, parce que lorsqu'ils te disent ça devrait arriver en hiver, ça sent le sapin, on va dire.
Bah, ils joueront Mario Kart jusqu'à Smash Bros, et puis voilà.
Non, donc concrètement, voilà, on a eu déjà une news importante, donc la version, donc ça, ils l'ont dit dès le départ, donc ils l'ont lâché, donc là cet été la version 3DS arrive, donc au niveau des exclusivités, donc on aura ce que l'on appelle le mode Aventure Smash, c'est-à-dire qu'on aura 4 joueurs en multi qui vont avoir 5 minutes dans un donjon à se fighter avec différents ennemis. pour pouvoir récupérer des bonus et qui ensuite vont se battre entre eux. Donc on a un mode aventure basé sur ce concept. Ensuite, ils ont aussi parlé du mode online où là on aura plusieurs modes, donc un mode qui s'appelle pour le fun, où là on va vraiment compter uniquement les victoires, où on va pouvoir avoir les bonus et autres sur le terrain. Et on a le mode pour la gloire, où là on est vraiment avec les terrains de base, tout plat, sans bonus, donc là où on a les victoires et les défaites qui vont compter. Donc là c'est vraiment le mode pour ceux qui veulent vraiment de la compétition, et donc pour le fun, bah voilà, ça parle de lui-même, donc c'est vraiment pour le fun. Donc au niveau des personnages, on a
fais la vite s'il te plaît, parce que si on va y être en 3 heures là.
Ah oui, j'ai fini. Donc au niveau des persos, on a Samus sans armure qui arrive, Sheik la transformation de Zelda, Dracaufeu et Amphinobi. Voilà ce qui a été annoncé. Donc concrètement, en fait, après on a plein d'autres annonces un peu moins importantes, mais concrètement, moi j'ai trouvé
nos auditeurs te remercient de leur épargner ça.
Le Nintendo Direct bien rythmé, j'ai trouvé ça courageux.
Excuse-moi,
40 minutes. Donc après moi je l'ai trouvé très bien rythmé, Sakurai est beaucoup plus efficace que Monsieur Iwata dans l'exercice, donc c'était vraiment très intéressant. Après, ça reste quelque chose qui va être intéressant uniquement pour les gros fans de Smash Bros. Si on est juste amateur de la série, effectivement, ça reste comme tous les Nintendo Direct assez ennuyeux. Voilà.
Voilà. Donc vous comprenez notre perplexité, n'est-ce pas? Je suppose.
Oh là là.
L'accusé a pété contre lui-même, hein, je veux dire.
Là, il a pris perpète plus décapitation en même temps, quoi.
Enfin bref, c'était passionnant, n'est-ce pas?
Oh merde. Donc, je pars, j'en ai marre.
Nous allons passer à la suite. Enfin, on va terminer par une news, une date qu'on a énormément entendue. T'en vas pas, Dwayne, parce que ça t'intéresse. C'est la date de sortie de Transistor et ça sortira donc le 20 mai. Alors Transistor, je rappelle, c'est qui? C'est le prochain jeu du studio derrière l'excellent Bastion.
Effectivement. Ah, juste au niveau des dates, il y a aussi le jeu d'Ubisoft, Child of Light, qui sort, lui, le 30 avril.
Et qui a diffusé un trailer qui déchire sa race, au passage.
Exactement.
Et qui nécessite Uplay pour jouer sur PC.
Voilà. Transistor, moi, je...
Ah oui,
le 20 mai, vous me voyez plus, hein. Salut. Non, parce que depuis que j'ai vu le trailer avec la bande-son qui déchire sa race... le doubleur du narrateur de Bastion qui était là avec sa voix super sexy, n'est-ce pas? enfin bref, c'est...
Regarde pas.
Mais j'attends beaucoup. C'est l'une de mes plus grosses attentes de l'année, c'est dire. Bon, allez, on passe à notre jeu du moment. Notre jeu du moment, c'est un jeu gratuit, pour une fois, oui, totalement gratuit. Vous pouvez le choper sur PC, c'est gratuit. Et ça s'appelle Heroine's Quest, Herald of Ragnarok.
Oh yeah.
A master craftsman after some mere wordplay?
évoque Heroine's Quest, Herald of Ragnarok. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un hommage, si je puis dire, la série des HeroQuest, ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est un jeu mêlant point and click et jeu de rôle. Et jeu de rôle en ce sens que donc au départ du jeu, vous allez commencer, vous allez choisir entre trois classes. Donc guerrier, mage, voleur, classique. Et donc, en fonction de ces classes, l'aventure ne se déroulera pas de la même manière, tout simplement parce que un guerrier, un mage et un voleur, ça ne résout pas les problèmes de la même façon, n'est-ce pas? Le mage, il utilise ses pouvoirs, le guerrier, il tape, et le voleur, il est discret. Et c'est ça qui fait tout le sel du jeu. Ça, plus le fait que votre personnage, un peu comme dans un Skyrim, pour donner un exemple, a des statistiques, acrobatie, magie, enfin ce genre de choses, et que plus vous allez utiliser certains pouvoirs, certains mouvements, etc., par exemple, plus vous allez tenter d'être discret, plus vous allez apprendre comment être discret, et donc plus vos stats vont augmenter. Donc, à ce niveau-là, ceux qui ont joué au Elder Scrolls ne seront pas dépaysés, ça fonctionne exactement de la même manière, et je dirais même, ça fonctionne même tellement bien que c'est aussi cheaté que dans les Elder Scrolls. Bon, j'exagère, mais en tout cas, ça s'augmente aussi facilement, qu'on va dire. C'est un peu comme du temps de Morrowind, tu sais, où tu passais ton temps à sauter pour augmenter ta capacité saut. Bah là, c'est pareil, en fait. Tu passes ton temps à sauter pour augmenter ta capacité acrobatie. Enfin, bref, Heroine's Quest, pourquoi je vous parle de ce jeu aujourd'hui? Déjà, comme je l'ai dit, parce que c'est un hommage à des jeux cultes du genre point and click, et que je sens que y a certains fans du genre qui vont être ravis d'apprendre l'existence de ce jeu. Et ensuite, parce que déjà, l'ambiance déchire, parce que l'histoire, bon, elle est classique, mais elle est extrêmement bien racontée, et elle est passionnante à suivre du fait que ça se déroule donc dans la mythologie nordique. Donc, Odin, Thor, etc. Enfin voilà quoi, c'est le Valhalla, les Valkyries, ce genre de choses. Voilà, bah, déjà moi c'est dans un setting, si tu veux, dans un univers qui me plaît énormément. C'est très bien raconté. Les énigmes sont extrêmement intelligentes. Ça dure quoi? Allez, une vingtaine d'heures, on va dire. Moi c'est beaucoup plus,
ah, mais oui.
Moi j'ai traîné, on va dire.
Okay.
Et en plus, cerise sur le gâteau, la direction artistique est vraiment géniale, et les personnages sont tous entièrement doublés.
Voilà. Okay, en anglais.
Ouais, par contre, c'est full anglais, hein. Français, allez vous faire voir, merci. Pur français, si vous ne parlez pas l'anglais, ce jeu n'est pas pour vous, j'en ai bien peur.
Mais ils auront au moins les sous-titres, non?
Non. Enfin, quoi que, tu me diras, j'ai un doute, parce que quoi, comme on simulait en anglais, ah, c'est bien possible qu'il y ait une version française, mais ça m'étonnerait qu'il y ait une traduction officielle vu que le jeu est gratuit. Donc, okay. S'il y a une traduction française, ça doit être non officielle, à mon avis. Enfin, bref. Franchement, c'est un jeu gratuit. C'est un jeu qui est au niveau de certains point-and-click qu'on a pu voir à une certaine époque. Enfin, parce que je veux dire pourquoi je dis ça, parce que visuellement, en fait, c'est du pixel art. Hein, donc, voilà. J'ai passé un excellent moment, c'était 20 heures de pur bonheur. Bon, j'aurais peut-être quelques petits reproches à faire sur la bande-son, etc. Mais concrètement, ce jeu, si vous êtes amateur de point and click, que vous aimez les jeux de rôle, je pense qu'il va falloir que vous fonciez dessus, parce que c'est un vrai régal.
Ouais. Et est-ce que tu sais si le développeur envisage une évolution ou un modèle économique au niveau de ce jeu,
je
ou ça reste
strictement aucune idée. J'ai découvert ce jeu cette semaine, j'ai dû y jouer à fond pendant ces trois derniers jours pour vous en parler aujourd'hui. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont une page où tu peux faire un don, en fait.
D'accord, ok.
Ce que je vais aller faire tout de suite, parce que je précise, le jeu, je l'ai fini tout à l'heure, là, en fait. Hein. Mais en fait, je l'ai fini pas très longtemps avant le podcast, c'est pour ça. En plus, moi, ce que j'ai trouvé excellent dans ce jeu, c'est que vraiment, il y a une vraie rejouabilité. Tu n'abordes pas le jeu de la même façon en fonction que tu joues mage, voleur et guerrier. Pour donner un exemple très simple, hein, je veux dire, à un moment donné, tu te fais voler tes affaires. Et il faut que tu trouves la guide des voleurs. J'ai joué en guerrier et en voleur ce passage. le voleur, il se fait chier à résoudre une énigme, le guerrier, il tape. Voilà, enfin, il défonce un passage, etc. Enfin bref, c'est, ce jeu a une vraie rejouabilité. Vraiment, tu peux y rejouer trois fois. C'est très bien raconté. Ça exploite vraiment bien la mythologie nordique. Enfin, voilà, qu'est-ce que je veux que je te dise? C'est gratuit et je ne m'explique pas comment aujourd'hui un tel jeu peut être gratuit, quoi.
Ouais, là, ce que tu me dis, c'est hyper impressionnant, quoi, pour un jeu gratuit. C'est plutôt énorme.
Non, et surtout, comme okay. Je l'ai dit, en plus, le jeu est entièrement doublé. Dwayne a écouté le doublage tout à l'heure.
Ouais, c'est assez impressionnant pour un jeu gratuit. Enfin, même pas pour un jeu gratuit, c'est pas de la haute qualité, mais c'est vraiment bon, quoi. Ça te détourne pas de l'histoire, en fait.
Bon, après, on pourra lui reprocher certains stéréotypes, le fait que l'histoire est très manichéenne, etc. Mais on s'en fout, bordel, putain, c'est dans un setting nordique, et ça colle tellement bien au truc que, voilà, enfin, voilà, moi, je voulais aller au Valhalla à la fin, quoi. Enfin, bref, c'est...
D'ailleurs,
c'est...
l'histoire, tu en parles, mais c'est quoi? C'est genre, en gros, tu dois rassembler des combattants pour aller faire le Ragnarok, c'est ça?
Ah oui, l'histoire. Tout simplement, tu joues un personnage que toi tu vas nommer, mais qui sera appelé dans le jeu l'héroïne, et ton rôle, ça va être de sauver le monde du Ragnarok, quoi. Écoute, t'es un héros, n'est-ce pas? Tu veux rejoindre le Valhalla?
Tu
vas devoir bosser pour. Et donc, pour bosser pour, tu vas devoir empêcher le Ragnarok. Je vais pas détailler le scénario non plus, mais on va dire que, si tu veux, effectivement, ce qui est un reproche qu'on pourrait y être fait, c'est que c'est manichéen. Quelque part, c'est très classique, mais c'est tellement bien raconté. C'est tellement immersif, t'es dedans, quoi.
Mais après, ce que tu dis par rapport au scénario, je sais que ça peut être un défaut pour certaines personnes que le scénario soit très classique, mais regarde tous les RPG qu'on a fait, tous les JRPG, etc. Finalement, ils sont tous assez classiques. Quand on en a fait 3-4, on a vu à peu près tous les scénarios. Mais ce qui change, c'est vraiment la narration et l'ambiance qu'il y a qui est entre chacun d'entre eux qui est différent. Et ça joue beaucoup. Et un scénario classique, ça veut pas forcément dire que c'est un mauvais jeu. Tant que l'histoire est bien racontée, même si les ficelles sont grosses, si le chemin que t'as parcouru il est bon, je vois pas pourquoi on cracherait dessus, quoi.
Je le précise parce que bon, voilà, ne vous attendez pas à autre chose. Tu es le rond, tu vas sauver le monde, quoi. Je veux dire, c'est ça. Basiquement, c'est ça. Voilà. Après, il y a moyen de la jouer un peu en mode pute, quand même. Mon personnage était une voleuse. Bon. Elle passait son temps à mentir, dès qu'il y avait son intérêt dans l'histoire, elle priorisait son intérêt, tu vois, enfin bref, héroïne, ouais, mais il faut pas déconner, hein, parce que d'ailleurs, t'as un score de réputation, en fait, si tu veux, en fonction de tes actions. Il faut savoir que sur 100, moi, j'avais 48, hein, donc, ça veut dire que voilà, bon, c'est moyen, mais normalement, quand t'es un héros sans peur et sans reproche, c'est pas moyen, hein, ça doit être 100, normalement.
Tu vas pas au bas, là.
Voilà, donc ça veut dire que pour arriver à ce score-là, j'ai dû quand même pas mal mentir, ce genre de choses, quoi. J'ai dû piller pas mal de baraques, etc. Genre même, à un moment donné, je me rappelle, j'ouvre une tombe, tu vois. Dans la tombe, il y a un cercueil. Dans le cercueil, rituel viking, machin bidule, il y a des espèces de pièces qui ont été mises dans la tombe pour accompagner le mort, etc. T'as le jeu qui te fait « Oh là là, c'est pas bien de piller une tombe. Rien à foutre. Hop,
hop,
salut, au revoir.
Enfin, » Ça sera pour mon café.
Voilà. Bon, après, si tu veux, j'ai pas joué à un personnage genre en mode Mass Effect. Salut, je suis un connard. Puis voilà, non. C'était plus, tu vois, salut, je suis en façade, je suis la gentille héroïne, et derrière, je pille toutes les baraques du coin, quoi. D'ailleurs, chose très intéressante, je pense que pour tous les gens qui, dans Skyrim, Oblivion, Morrowind, adoraient jouer des voleurs qui pillaient tout ce qu'il y a dans le jeu, ah, vous allez kiffer, hein. Parce que trouver la solution pour réussir à piller certains endroits, je veux dire, il y a des moments, faut bien planifier le truc, quoi. Parce que, si tu veux, j'ai comparé le jeu à Skyrim dans le fait que, en répétant une action, tu deviens de plus en plus bon dans cette action, comme le fait d'être discret, par exemple. Mais il y a un point où c'est très différent de Skyrim, c'est que t'auras beau être le voleur le plus discret du monde, tu pourras pas te pointer sous les yeux du mec, voler un truc sous son nez et repartir, quoi. Je veux dire, ça marche pas comme ça, quoi. Donc, il y a des véritables énigmes dans le jeu, quand tu joues voleur, il y a des moments où il faut vraiment que tu planifies tes cases, quoi, en fait. L'énigme, c'est, alors, il y a la tour de ce sorcier-là qui est super sécurisée. Comment je vais faire pour détourner son système de sécurité? Et c'est ça l'énigme, en fait.
Ça doit être mieux que GTA 5, alors.
En gros, ce que tu dis, c'est que dans Heroine's Quest, les vols sont meilleurs que dans un jeu nommé Thief. C'est ça.
Je suis pas d'accord, là.
Non, je parle du dernier.
Ah oui,
d'accord. Du dernier.
Ah, oui, non, mais... oui, on est, ah non, mais là, tu m'as fait peur. Alors, à un moment, mon cœur, il s'est arrêté, il a fait, non, il déconne, là.
Non,
ah,
le dernier.
Remarque, ouais. J'y ai pas joué, donc je ne sais pas. moi, je ne peux pas m'exprimer sur un jeu que je n'ai pas joué. Mais en tout cas, c'est très bon, effectivement. Donc voilà, t'as un challenge. Il y a tel système de sécurité, comment tu fais pour passer? Voilà. Moi, j'ai kiffé jouer, voleur, en fait. Et, limite guerrier, tu vois, j'ai trouvé ça chiant. Parce que bon, alors. Il y a un système de combat aussi, il faut savoir. Alors, tu peux soit parer, soit esquiver les attaques, en fait. Si tu veux, c'est un peu à l'ancienne où t'as les deux personnages qui se mettent face à face. Et à un moment donné, par exemple, quand tu le vois lever son bras droit, tu cliques sur la flèche gauche. Pour comme ça, ton personnage se met de côté, comme ça, il évite le coup, en fait.
Mais c'est très simple ou...
Honnêtement... Au début, c'est un peu déstabilisant parce que tu comprends pas forcément le système, mais une fois que tu le maîtrises, c'est finger in the nose. Hein,
okay.
Voilà. Honnêtement, la partie combat, c'est clairement pas la plus réussie du jeu, même si je pense que ça fait partie de l'immersion, quoi, du truc. Voilà, t'es un guerrier, puis
tu vas lui péter la gueule, voilà. Quoi.
Alors, un reproche qu'on pourrait faire aussi au jeu, c'est qu'il y a beaucoup d'aller-retour, quand même. Même si moi, en tant que voleur, je peux dire une chose, c'est que au moment où je commençais à en avoir marre, grâce à une quête qui m'avait été donnée par un membre de la guilde des voleurs, j'ai pu récupérer un item juste à ce moment-là qui me permet de faire du fast travel. Donc j'étais très content. Enfin, c'est juste au moment où tu vois les voyages, les allers-retours commençaient à me lourder, je récupère cet objet-là. Donc je ne sais pas, parce que en fait, si vous voulez, j'ai commencé à jouer guerrier, mais je n'ai pas beaucoup avancé. Donc je ne sais pas si à un moment donné, on récupère un objet qui fait exactement la même chose avec le guerrier. Mais ce que je sais, c'est que quand même, au bout d'un moment, ça commençait à devenir un peu relou, quoi. Parce que, si tu veux, le jeu, il se déroule principalement dans une espèce d'immense forêt qu'il va falloir que tu explores, en fait. Et très clairement, au bout d'un moment, bon, le fait de faire des allers-retours comme ça, ça te lourde, quoi. Parce qu'en plus, il y a des ennemis sur le chemin, bon, c'est surtout que les ennemis, quand t'as un super guerrier, bon, déjà en voleur, ils sont pas forcément super résistants, alors le guerrier, je te dis même pas, c'est... Salut, au revoir. Voilà, à ce niveau-là, quand même, il y a quelques défauts. Par contre, moi, honnêtement, je l'ai trouvé très intelligent au niveau de ces énigmes. J'ai vu qu'il y avait des critiques à ce niveau-là. Notamment, je crois qu'il y avait des bugs au départ, mais il paraît que ça a été corrigé depuis. C'est un jeu qui te pousse à réfléchir. Et même que des fois, les moins fiers d'entre vous seront obligés d'utiliser une soluce. Je le confesse, il y a des moments où j'en ai utilisé une parce que ça me lourdait. Mais chaque casus hypothétique, hein, je le dis très clairement. Moi, j'aime bien réfléchir, mais quand je passe trop de temps sur une énigme, au bout d'un moment, ça me lourde et je préfère avoir la soluce pour continuer parce que sinon, je suis pas le genre, tu vois, de gars qui apprécie en fait de bloquer trop longtemps sur une énigme, quoi. Mais très clairement, si vous kiffez les énigmes, je pense que vous allez aimer celui-là. Il y a vraiment de quoi faire. Enfin bref, moi c'est vraiment un jeu que je vous recommande. C'est gratuit de toute façon. Alors j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous perdez à essayer, n'est-ce pas? Si vous aimez les point and click en tout cas, si vous aimez les jeux de rôle aussi, je vous recommande d'y aller parce que voilà, je m'attendais pas, tu vois, à prendre autant de plaisir sur un jeu, et c'est pas parce qu'il est gratuit, quoi. Moi, franchement, qu'un jeu soit gratuit ou pas, je m'en fous. Ça me rend pas plus indulgent, et du début à la fin, le jeu a été vraiment extrêmement bien rythmé. En plus, au niveau de la narration, je l'ai pas dit, mais, t'as plein de PNJ, si tu veux, dans ce jeu, qui vont vraiment une personnalité propre, en fait. Et ça vient en grande partie des doublages, qui sont très bien faits. Et il y a des histoires, tu vois, qui sont pour chacun de ces personnages. Et des fois, il y a des non-dits, tu vois, qui sont tellement très bien faits, où voilà, t'as un petit détail dans un dialogue qui te fait dire que ah oui, alors ce mec, il a épousé cette nana, mais en fait la nana, elle était peut-être pas consentante au départ. Enfin bref, tu vois, c'est il y a la manière dont t'es raconté aussi l'histoire de certains personnages, etc., est extrêmement bien faite. Et franchement, j'ai été impressionné, quoi. C'est un jeu gratuit, mais honnêtement, il serait vendu à 10-15 €, ça me choquerait pas de le payer pour.
Et tu parlais de Mass Effect au début, quand tu commençais à parler du jeu, t'avais fait une petite référence à Mass Effect, et je voulais savoir si, est-ce que, comme dans Mass Effect, par rapport à la narration, etc., tu pouvais avoir des choix de dialogue qui allaient influencer le comportement de ton héroïne. Parce que moi, ce que j'aime bien dans Mass Effect, par exemple, c'est quand tu joues le côté un peu badass du héros, genre, en gros, tu descends de l'ascenseur, il y a une journaliste qui veut t'interviewer, et si t'as pas envie de lui parler, tu lui mets une droite dans la gueule, et puis voilà, c'est réglé. Est-ce qu'il y a ce genre de petite interaction avec les PNJ du jeu, ou bien c'est limité à... Il n'y a pas de choix de dialogue, en fait, ou bien c'est...
Alors, c'est un peu technique, hein, donc t'as des choix de dialogue. Un exemple tout con. Au début du jeu, tu vas te présenter au Jarl, qui est une espèce de, donc, de seigneur local, hein. En fait, quand tu te présentes, faut que tu choisisses comment tu te présentes. Salut, moi je suis voleur. Tu te doutes que bizarrement, quand t'es voleur, c'est peut-être pas la meilleure solution, tu vois.
Ouais.
Voilà. Enfin bref, il y a des choix de dialogue, effectivement. Tu peux mentir aux gens. Après, il faut bien garder à l'esprit que t'es censé jouer une héroïne. En tout cas, au moins une héroïne de façade. Donc c'est pas comme dans Mass Effect où tu vas jouer un connard de face qui l'assume complètement, quoi, tu vois, c'est pas tout à fait ça, quoi.
The connard. Sur sa gueule, tu pourrais l'écrire, quoi.
Quand même, c'est un jeu où tu joues un héros. Donc à défaut de te comporter en tant que tel, faut faire illusion au moins, quoi.
D'accord.
Sachant que attention, j'ai dit qu'il y avait des énigmes à résoudre. Mais ça veut dire pas que les stats ne comptent pas, hein, dans ce jeu. Hein. Les stats comptent. C'est juste que, en fonction du contexte, quand bien même tu as trouvé la solution pour passer un certain passage, je vais donner un exemple simple. Tu as un gouffre que tu dois passer. Solution pour passer, tu sautes par-dessus le gouffre. Tu décides de sauter. Tu n'as pas les stats suffisantes pour sauter. Tu tombes dans le gouffre. Enfin bref, tout ça pour dire que la partie jeu de rôle, statistique, etc. compte dans les énigmes, en fait. Donc c'est un vrai jeu de rôle à part entière aussi.
C'est bizarre parce que depuis tout à l'heure tu parles du jeu. Pour un jeu gratuit, il m'a l'air bien meilleur sur certains points que des jeux qui sortent, on va dire, pas des AAA du point and click, mais enfin les gros jeux AAA qui sortent sur qui statent tout ça. Mais pour l'instant, t'as pas énuméré de défauts majeur, quoi, dans le jeu, et dis-moi un défaut pour un jeu gratuit, bordel, sinon c'est, pourquoi
Non, mais pour moi, il n'y a pas de défaut pour jeu gratuit, déjà, ça n'existe pas. Il y a des défauts, il n'y a pas de défaut.
Défaut pour un jeu, quoi. On va dire qu'on s'en fout que le jeu soit gratuit ou payant, mais il y a bien un défaut dans le jeu ou pas? Parce qu'il a l'air vraiment excellent.
Comme je t'ai dit, il y a pas mal d'allers-retours.
Ouais.
Tu joues dans une espèce d'immense forêt, labyrinthique, et je suis pas sûr, encore une fois, que, en dehors, du voleur qui, à un moment donné, récupère un moyen de faire du fast travel, ce soit la même chose pour les autres classes. Sinon, bon, objectivement, c'est vrai que là, tu dis ça comme ça, mais j'ai du mal à trouver des défauts, en fait. là, tu vois, tu me prends un peu en défaut.
Non, mais c'est, voilà, c'est tout.
le tyran maître des calembours aujourd'hui.
Je sais pas ce qu'il a fait, mais c'est bizarre.
Tu disais quelque chose à TH?
Non, en fait, c'est juste que tu m'as donné très très envie d'y jouer. Comment je fais pour y jouer?
Tu vas sur Steam, ouais. Tu tapes Heroines Quest, tu télécharges, tu lances, et puis voilà.
D'accord. Non, parce que je savais pas.
Je l'avais oublié. C'est du pixel art, hein. Non, mais j'insiste. C'est du pixel art. Donc faut adhérer, hein. Bon, c'est pas le truc le plus moche que j'ai vu en pixel art, tu veux. Enfin, c'est même joli, moi je trouve. Mais faut adhérer aussi pixel art, quoi. Vraiment.
J'aime bien aussi
pixel art en HD, quoi.
Ça reste assez joli, je pense. Écoute, c'est des.
Allez voir les screens, vous verrez bien.
Ouais.
Franchement, c'est un jeu, il m'a bluffé. Je pense que vous vous en rendez compte. J'ai du mal à y trouver des défauts, etc. Bon, en même temps, je fais un test. Je viens juste de finir le jeu, donc c'est peut-être pas. J'ai pas pris tout à fait le recul qui était nécessaire sur ce jeu. Mais quelque part, honnêtement, là, comme ça, c'est un jeu je regarde un peu comment j'ai joué là et je me dis mais enfin il y a pas un moment où je me suis dit putain ça me saoule quoi. Ah si bon peut-être sur des énigmes effectivement où là où je me suis dit bon là ça me saoule mais ça c'est parce que je suis un quasi du point et clic hein, encore une fois. Voilà. Bon, ouais, par contre je vous préviens, alors les énigmes c'est pas forcément les énigmes les plus dures du monde hein, je veux dire il y a même des énigmes à un moment donné j'ai regardé la solution, j'ai fait putain mais mon pauvre gars mais t'es vraiment trop con quoi sérieux, enfin bref, mais quand même il y a besoin de réfléchir quoi. Donc si vous êtes un casu, ben on va dire que il y a des moments où vous allez bloquer. Sinon, si vous êtes un vétéran, je pense que ça sera bien quoi, ni trop ni pas assez quoi. Bon, je vous propose qu'on s'arrête là parce que je me suis étendu un peu trop en fait. On avait prévu un point culture, mais en fait on va s'arrêter là parce que sinon
ça donne bien envie en tout cas.
Le podcast il va durer 3 heures. Bon, j'espère que ça vous a donné envie de jouer à ce jeu en tout cas.
Oui, beaucoup.
Ben, encore une fois, c'est gratuit quoi. Alors bon, j'insiste, hein, je n'ai pas jugé sur ce jeu sur le fait qu'il était gratuit, ça je m'en fous. Mais le fait qu'il soit gratuit, par contre, c'est un argument massue à une époque où on ne vend des démos à 30 euros, quoi.
Et qui dure plus longtemps, en plus, il est gratuit, il dure 20 heures.
L'autre, 20 heures, full doublage, enfin bref, voilà. Bon, allez, sur ce, messieurs, dames, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bye bye.
Salut.
Bye bye.